Eh bien, c'est parfait. Comme disait Gilles tout à l'heure, on n'aura pas le temps, sinon. Donc, un grand merci à Nicolas Flodrops pour avoir joué le jeu de la musique en direct. Rapidement, de qui sont les musiques que l'on a entendues ?
Alors, le premier a été un prélude de Bois Mortier, musicien du deuxième tiers du 18e, un peu le Télémane français, je dirais. Le deuxième air était De Menuet tiré des Indes galantes de Rameau, de son opéra ballet. Et j'ai terminé avec une brunette, donc un petit air qui était en fait chanté au 17e, repris par Hautetert, un flûtiste du 18e, transcrit pour la flûte, avec des variations. Voilà.
Qu'on n'a pas eu le temps d'entendre, voilà. Évidemment, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Est-ce que vous pouvez préciser tout de même quel type de flûte vous jouez ? Car ce n'est pas celle que l'on trouve dans les orchestres symphoniques, et ceux qui ont l'ouïe un petit peu affinée s'en sont rendus compte.
Voilà, puisqu'il s'agit d'une flûte en bois, qu'on appelle communément la flûte traversière baroque.
Ou le traverso,
ou
à l'italienne.
Ou le traverso, voilà, pour traverse aujourd'hui.
Oui, c'est
bien.
Vrai.
qui est une flûte en bois à une clé, qui est là, le modèle que je joue est un modèle qu'on connaît, qui est copié, qui est un modèle qu'on a retrouvé en Belgique, qui est conservé maintenant. Et c'est un instrument qui apparaît en fait à la fin du 17e en France, et qui après est copié. Et donc on trouve plusieurs modèles tout au long du 18e, et puis à partir de cet instrument à une clé, eh bien, on l'enrichit de plusieurs clés pour obtenir la flûte qu'on connaît aujourd'hui, avec un son et un instrument qui est tout en métal.
Voilà, c'est ça, et donc le son est totalement différent. Ce qui est intéressant, c'est l'introduction de la flûte traversière en France, qui a une histoire singulière finalement. Et arrêtez donc de toucher le micro,
mais
par contre,
régler pour moi.
Voilà. Mais alors, par contre, il faut vraiment regarder le micro, en fait.
Bon, alors je
voilà.
Regarde.
Pour ne pas. Alors voilà l'histoire de la flûte, l'introduction.
La flûte, en tout cas en France, parce que la flûte traversière, on la connaît depuis la préhistoire. Hein.
Oui,
voilà.
On va pas remonter si loin.
Et puis à la Renaissance, où elle est déjà jouée. Et puis voilà que elle tombe un peu en désuétude au XVIIe. Et à la fin du XVIIe, pardon, ce même musicien, Hautetert, dont je parlais, met au point cet instrument. La flûte apparaît dans l'orchestre de Lully, avec un son tout à fait nouveau, inouï, très tendre et plaintif, et devient un instrument très en vogue, au même titre que la viole de gambe ou le clavecin. Et les musiciens qui en jouaient sont réellement devenus des stars qu'on s'arrachait pour des concerts en appartement, en soirée ou à Versailles.
Ah bah oui, le phénomène
voilà.
De starisation n'a pas attendu le 20e siècle,
voilà.
Ça c'est sûr, ni le 21e. Donc cette flûte vient d'Allemagne finalement à cette époque.
Oui, alors parce qu'à la Renaissance justement, c'est un instrument qui est joué notamment par les gardes suisses, et cette flûte on la nomme avec ce nom un peu barbare de Schweizerpfeife.
C'est juste un nom allemand.
Voilà, et on la voit dans l'iconographie au 16e, elle est jouée par exemple pour associer au tambour, pour galvaniser les soldats qu'on emmène à la bataille.
On la voit chez Dürer.
Voilà, exactement, ouais. Exactement, oui. On la voit aussi jouée en consort, donc à plusieurs, et donc on la nomme partout en Europe flûte allemande ou flûte d'allemand. En Angleterre, on la nomme German flute, et ça jusqu'à la fin du 18e siècle.
Jusqu'à ce que la France, finalement, lui donne ses lettres de noblesse dans la musique française.
Voilà, exactement, avec des musiciens comme Blavet, Hautetert, ou les Pignon des Coteaux et Rebillet, qui seront à l'honneur dans notre prochain programme.
Michel Pignolet de Montéclair, j'adore ce nom.
Oui.
Quelles sont les difficultés... Oui, c'est un nom pour Gilles de Fac, ça, pour un prochain texte. Quelles sont les difficultés particulières liées à cet instrument ancien, qui est donc en bois et...
J'ai pas envie de parler de difficultés.
Les caractéristiques.
Oui,
parce que
je joue également l'autre flûte, la flûte moderne. Mon cœur me dit que je préfère de très loin la flûte baroque. Et c'est une autre manière de s'approprier l'instrument. Alors, ces caractéristiques, c'est surtout le travail d'une recherche sonore qui est vraiment pour moi plus passionnant que sur l'instrument moderne. Travailler la matière et lui donner des couleurs et des affects différents. Et c'est évidemment lié au répertoire qui est associé à cet instrument.
C'est lié aussi au bois.
Oui, et puis voilà, le matériau brut, déjà, le bois donne aussi, enfin permet ça, c'est évident, oui.
Ne serait-ce que poser la flûte sur le menton, parce qu'on est à la radio certes, mais on la pose sur le menton, sous les lèvres, poser une flûte en métal bien froide et poser une flûte en bois, il y a déjà ne serait-ce que le contact, sensoriel.
Et puis le fait que l'instrument ne soit pas doté de clé et qu'on soit en direct, enfin directement lié au trou de jeu, c'est, voilà, il y a ce contact physique qui... en effet plus agréable. Oui.
Vous avez fondé donc il y a quelques années avec le claviniste Thomas Ivrard l'ensemble de musique de chambre sur instrument ancien, l'Oxymore. Alors c'est quand même un drôle de nom pour un ensemble.
Un drôle de nom, mais pas pour un ensemble qui s'intéresse au répertoire baroque. L'Oxymore c'est en fait une figure de style, donc empruntée à la langue française, qu'on trouve dans le théâtre classique, et qui par sa définition met en avant un concept, l'idée d'associer deux termes qui pourraient paraître contradictoires. Alors par exemple, je sais pas, on va citer la Fontaine dans son Lièvre et la Tortue, qui parle de la tortue en disant qu'elle se hâta avec lenteur, ou on peut parler de la peinture du Caravage avec sa technique du clair-obscur. Et donc tout ça, c'est un concept qui pour moi est éminemment baroque, et on le retrouve dans la musique, dans les harmonies d'un Carl Philipp Emanuel Bach par exemple, ou dans les contrastes qu'on trouvera dans une suite de danse de Marais, avec toujours l'idée de créer la surprise et d'opposer les caractères et les affects.
D'accord, voilà. Donc l'oxymore renvoie à ça.
En tout cas, voilà, oui. C'était... Et puis le mot, par sa graphie et sa sonorité, me plaisait. Il est peut-être un peu sérieux, mais bon, voilà, on le garde.
Oh bah, c'est de la musique sérieuse en même temps, faut quand même se voiler la face. Non, je sais que vous faites de la musique moins sérieuse, mais pas aujourd'hui, en tout cas.
Pas aujourd'hui, mais je cherche de plus en plus à les mêler, donc mêler les musiques de répertoire dit savant et les musiques de tradition populaire.
Oui. Et la tradition populaire, par essence, c'est moins sérieux, parce que c'est souvent la danse.
Oui, mais la musique baroque, en tout cas en France au XVIIIe, elle est à la fois, elle vient de la danse et du chant, voilà.
Et oui, Cyril, la danse est quand même un peu moins sérieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, un mot sur votre nouveau programme, les Fleusts de Diane. Je prononce tout, mais c'est un petit peu comme... bon, c'est peut-être pas ça. C'est la première étape, en tout cas, d'un projet plus ambitieux.
Oui, exactement. Alors, et c'est donc pour nous un projet plus ambitieux, puisqu'on réunit déjà une équipe plus importante. On sera 8. C'est un travail qu'on va mener en résidence fin avril, suivi de 4 concerts dans la région.
En résidence où ?
À LM, là où siège l'association qui porte les projets de l'Oxymore. C'est un projet pour lequel aussi on a fait appel à des subventions. Donc pour nous, c'est un peu une première étape dans la construction de l'ensemble. Et donc c'est un programme qui lui est uniquement instrumental et qui portera sur justement la naissance de la flûte dans le répertoire français à la cour de Versailles. Donc avec des musiciens comme Marais, Charpentier, avec sa grande sonate à 8. Qui est spécifiquement prévu pour 2 flûtes, 2 violons, basse de violon, clavecin, théorbe, et d'autres musiciens, dont Montéclair, dont on parlait tout à l'heure. Voilà.
Et puis aussi Lully.
Et Lully, oui, puisque l'effectif des 8 musiciens nous permettra de jouer la musique d'orchestre de Lully, qui, elle, est écrite à 5 parties, sans être trop technique. Mais voilà, donc on aura un programme... l'idée du projet est à la fois de travailler sur un programme qui permettra des instrumentations différentes, et donc de travailler aussi sur la mise en espace de la musique, avec tantôt 2 chœurs qui se répondront, 2 fois 4 musiciens par exemple, des effectifs un peu plus orchestraux, des pièces à 2, et donc l'idée aussi de faire renaître un peu à la fois l'intimité qu'on pouvait trouver dans les soirées d'appartement, ou alors la musique plus fastueuse des opéras de Lully ou Charpentier à la cour de Versailles, voilà. Et c'est en effet une première étape, puisque on a pour projet sur les 3 années à venir de développer un peu notre travail et d'approfondir le travail sur la musique française, avec peut-être au terme de cette action l'idée de monter un petit opéra d'appartement de Charpentier, donc là qui réunirait voix et instruments.
Alors sur la musique française, il ne vous reste plus qu'à prendre contact avec Vincent Tavernier et les Malins Plaisirs.
Exactement, il est dans nos carnets et c'est dans nos projets, exactement. Notamment pour les Plaisirs de Versailles de Charpentier.
Et voilà. Bah oui, parce que c'est tout à fait dans ses cordes, si je puis dire.
Oui.
Et puis, ben voilà, on n'aura pas le temps, je le dis moins bien que Gilles, mais voilà, c'est ça, on n'aura pas le temps de parler du travail spécifique que nécessitent quand même les partitions des 16e, 17e et 18e. Et puis, de toute façon, on vous reverra avec une cornemuse un de ces jours dans l'émission.
Voilà.
et donc là, on parlera justement du répertoire plus traditionnel et de ce qui mêle, en fait, la danse au XVIIe siècle.
Alors, mais déjà, juste un petit coup de pub, mais nous serons au musée de Cassel le 13 avril pour un programme de musique renaissance où là, je jouerai la cornemuse associée aux instruments anciens. Voilà. Donc,
bon, ben voilà qui est dit. Nicolas Flodrops, merci. Les Flustes de Diane, donc c'est le 13 avril, hein, musée de Cassel.
Non. C'est le 27 avril au Palais Rio à Lille et à Arras 28 et 29 avril.